Voilà, bonsoir chers auditeurs, c'est Olivier Tournafond avec un petit peu de retard, mais l'émission précédente parfois se termine ric-rac au moment où la mandienne commence. Alors ce soir, nous allons traiter une question que les gens ne semblent pas mesurer dans sa gravité, et pourtant c'est peut-être une des questions les plus graves de notre époque en ce moment. C'est la question de savoir si le conflit en Ukraine ne va pas finir par dégénérer vers une conflagration entre l'Union européenne, l'OTAN et la Fédération de Russie. L'opinion publique semble totalement anesthésiée. Quand j'en parle, on me rit au nez en permanence. On me dit, il n'y a aucun risque. Pour la plupart de mes contemporains, la guerre est un jeu vidéo qu'on regarde comme ça à la télé, on compte les points, après on recommence. Enfin, j'ai beau dire que depuis 2022 que la situation pourrit, qu'elle est extrêmement tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et non, mais ça arrivera jamais, ben non. Alors ça me fait penser à la mentalité qui régnait en juin 1914, où quand on disait il y a un risque de conflagration européenne. Mais non, personne ne savait qui était l'archiduc François Ferdinand, on ne va pas se battre pour ça, alors qu'il y avait des enjeux du même ordre, et puis finalement on a abouti à une des guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Donc, un analyste américain, alors j'ai le plaisir, d'ailleurs il faut que je présente tout de suite mes invités avant de parler de l'analyste américain, c'est le colonel Alain Corvez, qui m'a été recommandé par Nicolas Stocker, et qui est mon colonel, merci d'être venu dans cette émission pour apporter votre expertise. Il y aura notre ami Bruno Gollnisch qui va nous rejoindre par Zoom, et puis nous aurons Nicolas Stocker vers 20h qui nous donnera également son point de vue. Alors on ne pourra pas m'accuser de partialité parce que moi je suis plutôt favorable à la Russie puisque j'estime que l'Ukraine est une province de la Russie, ce qui n'est pas l'opinion de Bruno Gollnisch, mais après tout bon, on a le droit d'en débattre, et à partir du moment où on échange des arguments, et voilà Marc de Stahl, mon assistant, qui rentre subrepticement dans le studio. Alors je reprends... vous auriez dû mettre un masque de carnaval, hein, avec un masque de Guy Fawkes. Hein. On en trouve dans le commerce, des masques de Guy Fawkes. Alors, je disais, Scott Ritter, qui est un analyste américain, qui est un ancien militaire comme vous, et que vous connaissez personnellement, est un... Alors lui, très, très pro-russe, évidemment, a fait, il y a à peu près un mois de cela, une excellente émission, qui durait une heure et demie, sur le risque de guerre, sur la montée aux extrêmes progressive, parce que, à l'origine, rappelez-vous, en 2022, 2023, on hésitait. Alors je suis assisté, je devrais le dire, j'ai des trous de mémoire, par Bérénice Tournafond, pas seulement Marc de Stahl, bien sûr. On hésitait à envoyer des casques et des pansements, et on disait, oh là là, il ne faut pas fâcher l'ours russe, c'est très dangereux. Et puis petit à petit, on a jeté de l'huile sur le feu. Alors je rappelle quand même, alors il y a des gens qui ne seront peut-être pas d'accord avec ce que je dis, mais il leur appartient de démontrer que je me trompe, qu'en mars 2022, il y a eu des pourparlers de paix qui visaient une sorte de neutralisation, de finlandisation, comme on disait autrefois, de l'Ukraine. Et ces pourparlers de paix qui sont déroulés à Istanbul ont été torpillés par l'arrivée intempestive de Boris Johnson, qui, si ma mémoire est bonne, a dit à Zelensky, tenez bon, nous allons vous aider, vous allez gagner la guerre grâce à nous, vous récupérez même la Crimée, etc., etc., qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'a jamais fait partie de l'Ukraine. Bon, alors, là-dessus, les choses se sont envenimées, beaucoup de gens ont dit, ouais, mais ça durera pas longtemps, parce que l'Ukraine ne résistera pas. Sauf que, à force de jeter de l'huile sur le feu et de financer la guerre, et maintenant de mettre en place des usines d'armement en faveur de l'Ukraine, notamment de drones, qui sont capables de frapper à longue portée le territoire russe en profondeur. On l'a vu encore il y a quelques jours à Moscou. Enfin, alors on me dit, c'est pas forcément un missile ukrainien, c'est peut-être un missile russe qui aurait été détourné de sa trajectoire, qui serait retombé sur Moscou. Bon, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais Scott Ritter a tout à fait raison, on marche vers une conflagration. Voilà. Parce qu'à un moment donné, la doctrine Karaganov, qui est un des conseillers de Poutine, hein, qui consiste à dire il faut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard pour la Russie. Et arrêter ça, ça veut dire des frappes avec des missiles hypersoniques sur tous les sites de production identifiés dans l'Union européenne, en Lettonie, en Pologne, au Royaume-Uni, en France, je ne sais pas s'il y en a, il y a 25 sites. Alors là, évidemment, Poutine est très prudent. Hein. Poutine estime que c'est trop dangereux, il ne le fait pas. Mais Scott Ritter dit, à un moment donné, la doctrine Karaganov risque de l'emporter, soit parce que Poutine devra s'y résoudre, soit parce que tout simplement, il aura des gens dans son entourage qui le menaceront de le lâcher s'il ne le fait pas. Alors là, je peux vous dire que là, on rigole plus du tout. Hein. Voilà. Alors voilà, mon colonel, voilà pour nos amis auditeurs. Alors qu'est-ce qui se passe de nouveau? Ça va pas, non?
Juste un petit retard de Bruno Gollnisch.
Oui, c'est pas grave, voilà. Mais c'est que bon, j'ai un peu de retard, c'est pas très gênant. Alors, mon colonel Corvez, d'abord, en ce moment, dans les deux camps, on annonce la victoire. Hier, il y a trois jours, le Figaro annonçait la victoire de l'Ukraine. Hein, sur deux, trois ou quatre pages tapageuses, et sur le site de Xavier Moreau, on annonce la victoire de la Russie. Bon, le colonel Beau, je ne sais pas trop ce qu'il en pense, on n'entend plus parler de lui ces derniers temps. Alors vous, est-ce que vous pouvez nous donner la situation sur le terrain et expliquer un peu comment les choses évoluent?
Oui, je vais essayer. Je pense d'abord qu'il y a énormément de désinformation, côté ukrainien et côté russe, bien entendu. Sur le conflit, mais grâce à un certain nombre de cribles, on peut quand même déceler le vrai du faux. Pas toujours, mais dans les grandes lignes, on arrive à déceler le vrai du faux. Et le vrai, c'est que l'Ukraine est en train de s'effondrer militairement, que ce n'est pas l'Ukraine qui se bat, mais que c'est l'OTAN.
Ah, voilà.
Si l'Ukraine avait été laissée seule face à la Russie,
ça serait fini.
Ça serait fini depuis le début. Mais lorsque, en février 2022, la Russie a déclenché son opération spéciale, elle l'a faite, elle a déclenché cette opération parce qu'elle savait que déjà l'OTAN avait utilisé l'Ukraine, elle l'avait, on avait fait
une base
militaire prête à attaquer la Russie. C'est pour ça que le président Poutine, dans toute l'année qui a précédé sa opération spéciale militaire spéciale, il avait proposé, il a publié, monde peut l'avoir lu, hein, un projet d'accord stratégique entre les États-Unis et la Russie pour éviter la guerre. Mais l'administration Biden à l'époque, et dans la poursuite de l'administration américaine depuis Obama, hein, il fallait refuser, après l'effondrement de l'URSS, que la Russie s'entende avec ses voisins européens de l'Ouest et que ça constitue un pôle
eurasiatique, voilà.
Exactement, ouais, parce que l'énorme pays qu'est la Russie, et qui a des ressources énormes, gigantesques, dont nous avons énormément
besoin,
dont nous avons besoin notre industrie, pour tout, est en fait un pays qui est le plus grand du monde, et qui va jusqu'à l'Asie et à la Chine. Ben, donc, ce serait une ouverture vers l'Eurasie et vers la Chine.
Oui.
Donc, ça, c'est pour remettre les choses en place, c'est-à-dire que ce conflit n'a pas commencé le 22 février...
Non, il a commencé en 2014.
Il a commencé en 2014,
Maïdan.
Et avec le coup d'État, disons, bon...
Oui.
Et si, aujourd'hui, on en est là, c'est parce que, malgré le retrait américain, car il est incontestable qu'aujourd'hui, il y a une baisse... du soutien des États-Unis d'Amérique.
Depuis l'élection de Trump.
Depuis l'élection de Trump.
Oui.
Et je pense, bon, il y a des missiles patriotes que réclame Zelensky, mais qu'il n'aura jamais, parce que les missiles patriotes, ils en ont besoin ailleurs.
Oui.
Et donc, il y a un soutien militaire qui va être, sinon complètement asséché, au moins...
Très diminué.
Très fortement diminué. Oui. Et donc, les Européens, si vous voulez, là... Un raisonnement stratégique cartésien devrait dire, nous, Europe de l'Ouest, nous devons nous entendre et avoir des accords stratégiques avec la Russie, parce que c'est notre grande voisine, qui a des ressources énormes, et donc, stratégiquement, nous devrions avoir des accords avec la Russie. Mais comme les États-Unis avaient initié ça, et à l'époque, les Européens étaient moins en pointe que maintenant. Mais maintenant, les États-Unis étant en retrait, c'est l'Europe qui prend le relais et qui a décidé de continuer. Oui. Mais pourquoi continuer dans... C'est de l'idéologie pure et simple, ça n'est plus du raisonnement stratégique.
C'est ça que je ne comprends pas.
Et avec j'ai essayé de comprendre. Pourquoi est-ce qu'on marche tellement contre nos propres intérêts dans cette région? Mais c'est parce que ces dirigeants européens... Alors, Starmer, il était sorti, enfin, la Grande-Bretagne était sortie...
Heureusement, oui, alors ça, c'est une excellente nouvelle.
Par le Brexit.
Ça, oui, mais là, Starmer a été...
la Grande-Bretagne est sortie de l'Union européenne par le Brexit, mais elle était revenue par la fenêtre...
Elle est toujours dans l'OTAN.
Elle est toujours dans l'OTAN, et puis il y a des sommets sans arrêt à Londres, à Paris ou à Berlin. Et donc, les dirigeants européens, avec les Britanniques, que j'inclus dedans... sont complètement déconnectés de leurs citoyens. Ils n'ont plus aucun soutien dans leur pays.
Oui.
Et ils ont commis des erreurs qui font qu'ils sont honnis, même, dans certains pays.
En Angleterre, il y a des émeutes. Ouais. Alors, attention, la Paris Figaro dit il y a des émeutes racistes. Mais ce n'est pas des émeutes racistes, c'est des émeutes sociales de la population de souche qui n'accepte plus d'être trahie.
Oui.
On pourrait parler d'émeutes raciales, mais pas racistes. Ce n'est pas les Anglais qui sont devenus racistes du jour au lendemain,
non,
du tout.
Non, bien sûr.
Ce n'est pas des émeutes racistes.
C'est les Anglais qui ne sont pas contents de leurs dirigeants.
Et comme nous en France.
Comme nous en France, et comme en Allemagne, les Allemands. Mais les Allemands, ils ont eu un défouloir parce qu'ils ont eu une série d'élections qui leur a permis de manifester leur mécontentement.
Oui.
Alors, on dit, mais c'est dramatique parce que à la fois l'extrême gauche et l'extrême droite sont montés en puissance et il n'y a plus de soutien pour le centre. Oui, mais c'est le résultat de leur inconséquence et de leur idéologie européenne qui est que maintenant les nations sont dépassées par le fait supranational. Donc la France n'existe plus, l'Allemagne n'existe plus. Et comme on a commencé une guerre contre la Russie, il faut continuer maintenant. Et c'est notre seul moyen de nous en tirer politiquement.
Quand on est oligarque.
Quand on est
oligarque
et qu'on n'est pas soutenu par son peuple.
C'est ça.
En plus.
La fuite en avant.
C'est la fuite en avant pour continuer cette guerre, qui est une guerre fratricide entre Slaves, qui est absolument... J'ai des amis ukrainiens, donc j'ai énormément d'informations qui me parviennent d'Ukraine. Je suis désolé, mais ils sont en train de faire tuer des Ukrainiens pour des dirigeants européens qui sont incompétents
et corrompus.
Au minimum.
Et corrompus. Alors, il y a deux citations, pardonnez-moi de vous interrompre un instant, mais il y a deux citations que je voudrais rappeler, et qui sont que j'ai entendues de mes propres oreilles. La première, c'est de Thierry Breton, en 2024, qui a dit « Vaincre la Russie est désormais pour nous une question de vie ou de mort ». Il l'a dit, vous pouvez retrouver la citation. Et en septembre 2025, Kaja Kallas, qui est une sotte d'ailleurs, a dit « Nos véritables objectifs ont toujours été de démembrer la Russie ». Elle l'a dit.
C'est clair. Et Éric Le Maire disait qu'il allait faire s'écrouler l'économie russe
qui n'était pas plus puissante que l'économie espagnole, disait-il.
Oui. On a vu les résultats. Non, mais ces gens-là sont dans l'idéologie et ils ne sont pas dans la réalité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils sont complètement détachés de leur peuple. Parce que les paysans, comme les ouvriers dans les industries, comme toutes les corporations en France, en Angleterre, en Allemagne, en Italie et ailleurs, sont maintenant contre l'Union européenne. Pour une guerre absurde, complètement absurde. Parce que la Russie, c'est la Russie de Kiev. La Russie, elle est née à Kiev.
Bien sûr.
Et donc, cette Ukraine, elle a toujours été russe.
Ça fait partie
de... Vous n'avez pas vu de révolte dans les régions qui ont été libérées par le Donbass, Zaporijjia et Kherson. Vous n'avez pas vu de révolte des habitants en disant qu'ils n'aimaient pas les Russes. Ils les ont accueillis à bras ouverts.
Il n'y a qu'une partie de l'Ukraine qui, elle, n'est moins russe, c'est la Galicie. n'est-ce pas, Stanley, hein, pardon, Marc, il y a une partie qui est là, qui a été sous l'Empire austro-hongrois, où ça a même été la Pologne,
ça a été
époque,
la Pologne,
les pays baltes. Alors, à la limite, bon, que l'on rende ce morceau-là à la Pologne et à l'Union européenne ne me choquerait pas, mais que l'on laisse à la Russie, ce qui est partie des vieilles provinces russes. D'ailleurs, écoutez, moi, vous connaissez la musique russe probablement, les tableaux d'une exposition de Moussorgski, le tableau final, c'est la grande porte de Kiev.
Enfin, oui,
quand vous, bon, je prends mon dictionnaire, mon grand Larousse universel de 1906, qui est très bien d'ailleurs, qui est vraiment très 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 bien. Au moins des gens objectifs. Je regarde Ukraine, il y a marqué province de l'Empire russe, considérée comme le berceau de la Russie.
Absolument.
Bon, c'est quand même pas des complotistes d'extrême droite de Radio Courtoisie qui ont écrit le Larousse universel en 30 volumes de 1906.
Un des plus grands historiens français, Benoît Méchain, qui a écrit en 1938 un petit bouquin qui est délicieux à lire, parce que d'abord, Benoît Méchain écrivait très bien, merveilleux français, mais il a écrit en 1938 « Ukraine, le fantôme de l'Europe ». Et il explique comment cette création artificielle, à l'époque, il ne dit pas qu'il faut la détruire ou la changer, mais enfin, il décrit d'où elle vient et toutes les raisons pour dire que ce n'est pas un pays, ce n'est pas une nation en elle-même ukrainienne. Parce que il y a des Ukrainiens qui sont de sympathie polonaise, hongroise, roumaine, et une autre grosse partie
qui est russe, d'ailleurs.
Russe, parce qu'ils sont russes, en
d'ailleurs,
fait.
D'ailleurs, c'est ce qui nous est confirmé par les gens que nous connaissons, qui sont ukrainiens en Suisse, hein, n'est-ce pas, et qui le disent ouvertement. Ils disent, nous parlons la même langue, on est le même peuple, là, on fait partie de la même race. C'est une guerre fratricide. C'est comme si on se battait. Et je dis toujours, alors ça choque, les gens sont fous furieux quand je leur dis ça, mais il y a moins de différence entre un Ukrainien et un Russe qu'entre un Alsacien et un Parisien.
Oui.
Et on a fait, d'ailleurs, la guerre de 14 pour récupérer l'Alsace et la Lorraine, quand même, en réalité.
Ouais.
Parce qu'en fait, c'est pas des ordres de l'archiduc François Ferdinand, c'est pour ça qu'on s'est battu. Il y avait des arrière-pensées. De même qu'il y a des arrière-pensées en ce moment. Alors, l'arrière-pensée que tout le monde soupçonne, c'est de mener une sorte de fuite en avant, comme vous l'avez bien expliqué, et qui permettrait à tous ces oligarques corrompus et malveillants, et traîtres en même temps, européens, de s'en sortir, par exemple, de décréter l'état d'urgence, article 16, les pleins pouvoirs.
Oui.
Et là, bah, c'est la divine surprise, quoi. Alors, à ce moment-là, il n'y a plus d'élection, il n'y a plus rien. Comme Zelensky, qui reste au pouvoir, d'ailleurs, en Ukraine, sans élection. Alors, est-ce que c'est ça? Alors, on me dit, mais non, vous êtes parano, mais jamais de la vie, mais enfin, voyons, c'est pas sérieux. Eux, ils préparent déjà leur départ. Macron pense déjà aux gens qui vont lui succéder. Mais moi, j'ai toujours pensé que ces gens-là, ils sont très intelligents d'abord, ils sont ils sont mauvais, mais ils sont intelligents quand ça concerne leur carrière. Ils ont plusieurs fers au feu. Ils n'ont jamais qu'un seul plan. Ils ont toujours des plans B. Ça fait partie d'un des plans possibles. J'ai pas dit qu'ils allaient forcément ne vouloir que ça. Mais à mon avis, ça fait partie des éventualités qu'ils caressent. Et les circonstances sont favorables, eh ben, ils vont jeter de l'huile sur le feu. Alors, faut parler un peu de la guerre des drones à nos auditeurs, parce que ça, c'est ça qui se passe en ce moment. On est passé d'une guerre très traditionnelle, de position d'ailleurs, à une guerre des drones.
Effectivement, ce conflit en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, enfin, entre la Russie et l'OTAN,
au travers
de l'Ukraine, a apporté des bouleversements stratégiques et tactiques dans l'art de la guerre. Et effectivement, cette apparition des drones, alors de plus en plus sophistiqués, qui sont capables, pour certains, de passer les défenses adverses, de les éviter. Également, on a vu l'importance des drones dans la guerre Iran-États-Unis, puisque les Iraniens ont mis au point des drones également, qui sont très performants, et qu'ils lâchent, ils les envoient par des missiles, et ces missiles s'ouvrent et ils lâchent leurs drones au dernier moment. Donc, il y a une complexification et une une amélioration des possibilités de ces drones qui est énorme. Parce qu'en plus du guidage et de l'éviction des radars et des défenses antiaériennes, il faut quand même qu'ils aient une charge suffisante, donc
explosive,
assez fort pour détruire l'objectif que, sur lequel ils vont. Et c'est un bouleversement complet. D'ailleurs, je suis dans les actualités en France. L'état-major des armées, la DGA, la Direction Générale de l'Armement, travaille énormément sur ce sujet et, fort heureusement, ils essaient de faire se coordonner des petites sociétés françaises qui sont très performantes dans ce domaine et avec les grands de l'armement pour progresser dans la fabrication de ces drones qui sont devenus des pièces essentielles sur le champ de bataille.
Mais alors, est-ce que ces drones que nous fabriquons, ce sont ceux-là même que nous livrons à l'Ukraine en ce moment ?
Alors, ça, je ne sais pas.
Parce qu'il y a ce fameux carte des 25 sites de production qui a été publié par le ministère des Affaires étrangères russe au mois de janvier, je crois, qui montre que sur le territoire de l'OTAN et de l'Union européenne en particulier, mais aussi au Royaume-Uni, il y a 25 sites de production de drones de plus en plus sophistiqués qui risquent, à terme, de mettre en difficulté la Fédération de Russie et d'entraîner des frappes à longue portée. D'où la proposition de Sergueï Karaganov de monter d'un cran dans la guerre et d'utiliser des armes nucléaires tactiques pour détruire l'Ukraine avant qu'elle ne puisse porter des coups mortels à la Russie. Et aussi, alors c'est ça que Poutine apparemment ne veut pas faire, et je comprends, de frapper au-delà de la frontière de l'OTAN les sites de production, notamment en Lettonie et en Pologne.
Oui.
Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que Sergueï Karaganov, c'est pas n'importe qui. Hein. Oui, c'est quand même un des conseillers proches de Poutine, mais Poutine ne le suit pas pour le moment. Mais Scott Ritter, on parle très très longuement de ça.
Pour le moment, il n'est plus officiellement, je crois, conseiller.
Il l'a été. Et, voilà.
Mais il reste une personnalité très influente dans l'entourage immédiat.
Alors, je crois qu'il y a quelqu'un, on arrive qu'est-ce qui se passe ? Il faut prendre les casques, c'est ça ? Parce que je crois que c'était par Zoom. Voilà, très bien. Allô ?
Oui, allô ?
Oui, c'est Bruno.
Oui, cher collègue.
Ah, bonjour, je suis content de vous entendre. Voilà.
Je suis confus, j'étais sur la route et en plus j'ai des problèmes techniques.
Ah bah oui, alors c'est pour ça qu'on vous entend mais on ne vous voit pas.
Non, mais vous savez, bienheureux ceux qui ont cru sans avoir vu.
c'est évident. C'est évident. D'ailleurs, très souvent, Dieu fait entendre sa voix, mais on ne le voit pas non plus.
C'est rendu visible une fois.
Alors, nous avons notre ami le colonel Corvez, adressé...
Je salue le colonel Corvez, dont je connais les compétences.
Voilà.
Je salue moi aussi Bruno Gollnisch.
Alors, est-ce que Bruno, qu'est-ce que vous pensez de cette espèce de frénésie des dirigeants de l'Union européenne de vouloir frapper toujours plus loin la Russie avec des drones de plus en plus perfectionnés à portée de plus en plus longue jusqu'à provoquer peut-être à un moment donné une réaction extrêmement violente de la Russie qui a les moyens de répliquer ? Qu'est-ce que cette histoire, en quoi est-ce que ça concerne les peuples européens ? C'est une histoire d'oligarques qui cherchent à sauver leur peau en créant une dissuasion, je ne sais pas, une diversion plutôt. Diversion. Alors, avant les élections, voilà.
Je ne diverge de vous que sur un point. Je ne crois pas que ce soit seulement une affaire d'oligarques. Je pense que c'est un problème dramatique. C'est une guerre absolument folle qui voit deux peuples slaves, deux peuples... orthodoxe ou pour ce qui est de ce qu'on appelle les gréco-catholiques fidèles à Rome et qui ont souffert d'ailleurs pour cela dans leur chair, mais en tout cas participant de la même civilisation, s'affronter dans un combat qui dure depuis déjà plus longtemps que la Première Guerre mondiale.
Oui, c'est vrai.
Ils sacrifiaient leur jeunesse, c'est quelque chose d'effroyable. Je pense, malgré vous peut-être, que je pense, contrairement à certains de mes amis, que M. Poutine a une responsabilité là-dedans, parce que quelle qu'ait été la situation dans le Donbass, la Russie avait reconnu les frontières de l'Ukraine. L'Ukraine, y compris d'ailleurs les populations du Donbass, avaient voté pour l'indépendance. Et c'est évidemment que cette agression militaire est, à mon avis, compréhensible par beaucoup d'aspects. Ouais. Mais je dirais la même chose que ce qu'a dit Talleyrand après l'exécution du duc d'Enghien. C'est pire qu'un crime, c'est une faute. Ouais. D'ailleurs, la preuve, c'est que l'OTAN était en situation d'électroencéphalogramme plat, comme oui. l'avait dit le vénéré président Emmanuel Macron, non sans justesse d'ailleurs, en la circonstance, et cette opération lui a redonné un nouveau souffle et une nouvelle légitimité. Oui. L'Union européenne était extrêmement contestée, elle tenait l'Ukraine à distance avec une gaffe, lui demandant d'assimiler des milliers de pages de textes, de règlements avant éventuellement d'adhérer. Depuis cette affaire, on lui tend les bras malgré la situation de ce pays. Par conséquent, je pense que l'opération a été maladroite en ce que les buts de guerre
n'ont pas pu être atteints.
Ont été réduits à peu de choses dès l'ouverture des hostilités. Cela étant dit, je crois en effet, comme vous, et alors là, à 100% et 200%, qu'il est extrêmement périlleux de vouloir aider l'Ukraine à frapper dans la profondeur la Russie. Pour deux raisons principales. La première, c'est que ça ne sert à rien, parce que l'immensité du territoire de la Russie fait qu'elle ne peut pas être vaincue. C'est aussi simple que cela.
Ouais.
Et nous autres Français, nous avons payé pour le savoir.
Oui. oui.
Et nous sommes même allés jusqu'à Moscou et nous avons dû en repartir après toutes ces victoires éclatantes, Borodino, etc. Nous avons dû en repartir assez piqueusement et dans des conditions effroyables pour nos soldats. Par conséquent, la Russie ne peut pas être vaincue. Mais ça ne sert à rien de prolonger la distance des armes qui sont susceptibles de l'atteindre. Et la deuxième raison, c'est que c'est effectivement extrêmement périlleux, parce que ça nous constitue, nous autres Européens, en situation de quasi-belligérants. Et alors, que se passerait-il si, à l'issue de cette confrontation, par exemple, M. Poutine décidait d'utiliser l'arme nucléaire tactique comme un certain nombre de Russes le pressent
Bien
de
sûr.
Le faire.
Oui. C'est ce que dit Karaganov, d'ailleurs.
Qu'est-ce qu'on ferait à ce moment-là on enverrait nos sous-marins nucléaires lanceurs d'engins dans la Baltique pour vitrifier Moscou et Saint-Pétersbourg.
Bah, c'est la fin du monde, là.
C'est la fin du monde.
Ouais, on est
Par
bien d'accord.
Je pense que la responsabilité des dirigeants européens doit être de rechercher la paix par tous les moyens.
Oui, mais s'ils font
et
tout
la
le contraire.
Il y a moyen, malgré tout, d'y parvenir.
Alors, bien sûr qu'il y a moyen d'y parvenir. Nous, si on était au pouvoir, on ferait la paix très vite. Et puis, on aurait déjà évité de torpiller les procédures de paix en 2022 à Istanbul, alors que Boris Johnson a été jeté de l'huile sur le feu. Mais il y a une question que j'aimerais poser au colonel Corbez. On dit que l'Ukraine avait une population de 40 millions d'habitants, elle n'est plus que de 25 millions aujourd'hui. Est-ce que c'est exact, ça, cette statistique ?
Je pense qu'elle est exacte. Je ne peux pas l'affirmer de façon absolument certaine, mais je pense que c'est peut-être pas exactement 25 millions, mais la population ukrainienne a énormément
baissé.
Mais
c'est
c'est pas dû uniquement aux morts au combat.
Non,
hein,
non.
C'est qu'il y a eu énormément d'Ukrainiens qui sont partis en France.
Bah, évidemment.
En Europe,
en Suisse,
aux États-Unis, en Suisse.
Partout.
Oui.
Oui, partout. Mais est-ce que, Bruno, est-ce que vous n'avez pas l'impression que nos... Alors, il y a quand même une très bonne nouvelle, vous l'avez certainement appris aujourd'hui, c'est que Keir Starmer, qui était un bellististe fou furieux, a été déboulonné enfin. Et que
oui.
Là, en fin de mois, il reste maire, c'est Macron. Alors, ça fait quand même... Bon, maintenant, il va y avoir une période de trouble en Grande-Bretagne à cause des émeutes sociales contre les mesures pro-migrants que prend le gouvernement, qui exaspère le peuple britannique. Donc, peut-être qu'on va avoir un peu la paix du côté des Anglais. Il reste Merz et Macron et cette idiote de Kaja Kallas qui jette de l'huile sur le feu tout le temps. Puisqu'elle a dit, rappelez-vous, il y a quelques mois, notre véritable but de guerre, c'est de démembrer la Russie. Je vois pas très bien comment la Lettonie, parce que je crois, non, elle vient de Finlande, elle. Je vois pas comment Madame Kallas, qui vient de Finlande, pourrait démembrer la Russie. Bon, mais enfin, ça veut dire qu'ils ont bien cet objectif. Alors, est-ce qu'ils s'amusent à aller toujours un peu plus loin en se disant, bah, le moment venu, on fera marche arrière, ou est-ce qu'ils caressent l'espoir de créer une sorte de guerre qui mettrait le feu aux poudres et qui leur permettrait de rester au pouvoir, un peu comme Zelensky, en quelque sorte, je ne sais pas.
Je l'ignore. Bon, les Finlandais ont assurément un vieux compte à régler avec les Russes depuis que ceux-ci ont tenté de les envahir et leur ont pris une partie de la Carélie, échouant pour l'essentiel en raison de la résistance héroïque du peuple finlandais, oui, et conduit par le maréchal Mannerheim.
Oui.
Mais tout cela me paraît extrêmement dangereux, parce que, comme vous dites, aller toujours plus avant dans le bellicisme en se disant « si ça devient dangereux, on reculera », ça ne marche jamais.
Ah oui.
Voilà, c'est ce qui s'est passé avant la Première Guerre mondiale, et la situation actuelle me fait terriblement penser...
Ah oui.
à la Première Guerre mondiale. Il se trouve que mon arrière-grand-père, Émile Flourens, était ministre des Affaires étrangères sous la Troisième République et qu'il a initié l'Alliance franco-russe. Il était l'ami, le biographe d'ailleurs du tsar Alexandre III. J'ai hérité de lui la correspondance diplomatique qui a été éditée après la Première Guerre mondiale, la correspondance diplomatique de juillet 1914, c'est-à-dire le mois qui a précédé l'entrée en guerre. C'est tout à fait hallucinant. On voit que les dirigeants, les diplomates, ne souhaitent pas la guerre, que chacun se dit que cette affaire qui oppose l'Autriche à la Serbie en raison de l'assassinat de l'archiduc
François Ferdinand,
extrémiste serbe, c'est bien dommage, mais cette affaire, on va la régler comme on a réglé les précédentes, à l'amiable, par un congrès international. Et surtout, on ne va pas se faire la guerre pour si peu.
Oui.
Et pourtant, chacun y est inexorablement conduit par sa propre logique.
Oui.
Alors, je ne voudrais pas parler trop longuement, mais quand même, vous citez pratiquement de mémoire la dernière lettre adressée par l'empereur d'Allemagne, Guillaume II, au tsar de Russie, Nicolas II. Elle est libellée à peu près dans ces termes que je cite presque mot à mot de mémoire. Niki, parce qu'ils s'appelaient par leur...
Oui, parce qu'ils étaient cousins.
Ils étaient cousins. Ils s'aimaient beaucoup.
Oui, oui.
Ils étaient souvent...
ensemble.
Ils avaient passé des journées ensemble.
Ils faisaient des pique-niques ensemble.
Je t'en conjure. Arrête ta mobilisation, car si ta mobilisation continue, mon gouvernement dit qu'il ne peut pas courir le risque d'avoir à se battre sur deux fronts,
et ben voilà, ouais,
c'est-à-dire à la fois contre la Russie et contre la France. Et je crains qu'à ce moment-là, la guerre ne soit inévitable.
Mais c'est exactement
Niki,
ça.
Ce conflit localisé jusque-là, cette guerre que l'Autriche fait à la Serbie est légitime. Les Serbes ont abominablement assassiné leur propre roi et leur propre reine.
Ouais,
ils sont derrière l'assassinat de l'archiduc...
François Ferdinand.
François Ferdinand, ce qui n'était pas faux d'ailleurs. Et voici la phrase finale qu'il faudrait méditer et enseigner dans tous les livres d'histoire. Cette guerre est nécessaire au maintien de la stabilité de nos trônes et du principe dynastique. Voilà. Et autrement dit, comme la mobilisation russe ne s'est pas arrêtée, d'ailleurs les Russes ne disposaient pas d'un plan permettant une mobilisation partielle, ils n'avaient de plan que pour la mobilisation générale. La mobilisation russe ne s'est pas arrêtée, l'Allemagne est entrée en guerre pour assurer le maintien du principe dynastique et de la stabilité des trônes. 4 ans plus tard, 11 millions de morts, je crois, et 40 millions de blessés et des pays absolument dévastés, tous les trônes impliqués,
sans tomber.
Celui d'Angleterre, tous les trônes avaient été renversés et dans des conditions quelquefois effroyables. Le tsar de Russie et toute sa famille massacrés à Yekaterinbourg. Les Hohenzollern qui avaient fait l'unité allemande exilés piteusement en Hollande. Les Wittelsbach de Bavière, les Saxe-Gobourg-Gotha, ouais. Les Saxe-Gobourg-Eisenach, le duc de Bade, etc.
Les Habsbourg,
Les
Habsbourg aussi.
Quand même une illustration extraordinaire, me semble-t-il, de ce que la guerre peut conduire à l'effet absolument inverse de celui que l'on recherche.
Mais c'est absolument évident, et surtout qu'il y a la même anesthésie des opinions publiques aujourd'hui, comme en juin-juillet 1914, parce que tous les gens que j'ai rencontrés qui avaient connu un peu cette période, notamment mes grands-parents et mes parents, m'ont dit que personne ne pouvait imaginer qu'une guerre allait se déclencher pour ça, parce qu'on ne savait même pas qui était François Ferdinand. Mmh. Et on s'en fichait fichait complètement.
J'ai hérité de mon grand-père maternel la collection complète des illustrations de cette époque, qui était, si vous voulez, le Paris Match, le grand magazine illustré. Oui. L'ultimatum autrichien à la Serbie fait un entrefilet de 20 lignes.
Oui.
Bon. Alors que c'est ce qui a déclenché la guerre. En revanche, tous les journaux ne parlent que de l'affaire Caillaud. Madame Caillaud, la femme de du président du Conseil, on dirait aujourd'hui du Premier ministre, mais c'est plus que le Premier ministre, c'est lui qui avait le pouvoir, qui... blessé de ce que le Figaro ait publié les lettres que lui écrivait Caillaud alors qu'il n'était que son amant, et révélé cette relation alors adultérine, a demandé à être reçu par le directeur du Figaro, M. Calmette, et de son manchon a extrait un petit revolver et elle a déchargé 6 balles sur M. Calmette. Mais à l'époque, les jurys étaient composés exclusivement d'hommes, mais c'était de galants hommes. Et ils ont trouvé que la cause de Madame Caillaud n'était pas si mauvaise que cela, que ce monsieur Calmette avait été discourtois. Et à la question « Madame Caillaud a-t-elle tué monsieur Calmette tel jour à telle heure ?» ce qui ne faisait de doute pour personne, ce qui n'avait pas été nié, même pas par l'intéressé, et ce qui était parfaitement établi, le jury a répondu non.
Oh, c'est
fou. Autrement dit, acquittement de Madame Caillaud. Et voilà l'affaire qui défrayait la chronique.
Mais comme aujourd'hui,
les préparatifs de guerre revenaient bien après.
Mais alors, on a des questions d'auditeurs, on va devoir vous interrompre, mais je voulais quand même rappeler à nos auditeurs qu'il y a quelque chose d'excessivement grave, c'est que Macron a demandé à l'armée ukrainienne de défiler sur les Champs-Élysées le 14 juillet. Pour moi, c'est une sorte de déclaration de guerre à la Russie, n'est-ce pas, mon colonel ?
Oui, ça c'est scandaleux. D'ailleurs, dans les milieux militaires qui ne sont plus en activité, mais que je connais bien, que je fréquente beaucoup, tout le monde est révulsé et vraiment, il y a une colère rentrée qui se manifeste à cette occasion. Pour revenir sur le conflit Ukraine-OTAN contre la Russie, on est dans l'idéologie. Il n'y a pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de raisonnement stratégique. Parce qu'un raisonnement stratégique dirait qu'il faut que la Russie et l'Europe de l'Ouest
collaborent
sur tout un tas de domaines, les richesses énorme de cet immense pays qui est notre voisin et qui nous ouvre les portes de l'Asie, on doit coopérer et s'entendre avec eux. L'idée du général de Gaulle, hein, oui, et, alors que c'était l'URSS.
Mais eux, c'est fou là.
Mais maintenant que c'est plus l'URSS, ces gens-là, au départ, suscités par les Américains, maintenant les Américains font marche arrière, mais au départ, c'est les Américains qui ont suscité cette hostilité envers la Russie.
Brzezinski, déjà, dans 1995. Alors, il y a un Bobineau qui doit passer. Je laisse la technicienne le faire, et il y a les questions ensuite.
La gauche cible les associations de droite pour les priver de dons, défiscaliser et veut nous empêcher d'exprimer nos idées, vos idées. Une enquête exclusive de Radio Courtoisie et de ses partenaires lève le voile sur l'hypocrisie de la gauche subventionnée et ses pratiques fiscales douteuses. Du 23 au 26 juin, des révélations en continu sur les sœurs de la perpétuelle indulgence, Médiacité, l'ADMD et l'association Fier and Queer. Avec la publication des articles de l'Incorrect, de l'OGIM, de Boulevard Voltaire et de nouvelles émissions. Restez bien à l'écoute de notre antenne.
Alors, avant de prendre notre ami Nicolas Stocker qui va nous rejoindre, juste les questions, Marc, des auditeurs.
Deux remarques des auditeurs. Cher Olivier, à vous entendre, donc personne ne comprend la raison profonde pour laquelle l'Europe otanesque, non soutenue par les USA fondateurs de la dite OTAN, ferait la guerre à la Russie en armant l'Ukraine. Quel pourrait être le lien avec le fait que des gens comme Jared Kushner achètent des milliers, des millions d'hectares de terres formidablement nourricières. Au profit de qui? Qui tient les rênes? Personne quasiment ne répond à cette question, je m'en étonne.
Eh bien, on va peut-être demander à Nicolas Stocker, qui va nous rejoindre, on va relire la question, et il va pouvoir justement donner son avis. Parce que moi, j'avoue que je n'ai pas suivi ça très en détail, je ne sais pas si mon colonel vous l'avez suivi, mais je crois que Nicolas Stocker, avec sa chronique géopolitique profonde, sur géopolitique profonde, il doit bien être au courant de tout ça. La deuxième question.
Alors, l'OTAN peut être toujours en état de mort cérébrale, on n'en doute pas quand on entend son secrétaire général, mais encore agité par les gaz de décomposition. Car les États-Unis ont atteint leur objectif défini juste avant 1900, de ruiner et vassaliser complètement l'Europe continentale. Ils ont éliminé un de leurs concurrents, ils ne craignent plus l'alliance de l'Europe et de la Russie jusqu'à la Chine. Et l'OTAN n'a plus d'utilité que comme catalogue d'armes américaines que leurs vassaux et supplétifs doivent acheter. Rien de nouveau depuis la féodalité.
Oui, mais enfin bon...
Ça c'était plus un commentaire qu'une question. Oui, mais pour revenir sur la première question, effectivement, l'équipe de Biden au départ, ensuite l'équipe de Jared Kushner ont acheté et continuent d'acheter et de défendre les investissements qu'ils ont fait en Ukraine énormément. L'équipe de Jared Kushner a également acheté une île albanaise.
Oui.
Sans doute que sous la pression des manifestations des Albanais qui sont révoltés par cet achat, cette acquisition, sans doute que l'affaire ne se fera pas. Mais si je réponds à cette question, c'est que l'auditeur a raison de faire le lien entre ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe entre les États-Unis et l'Iran, parce qu'on a les mêmes forces
en présence
qui s'affrontent. Alors pas toujours en présence, mais elles s'affrontent
néanmoins. Il y a Nicolas Stocker qui n'a pas beaucoup de temps. Nicolas, est-ce que vous nous entendez?
Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, chers auditeurs.
Bonjour, Nicolas.
Vous, Olivier.
Alors, est-ce que vous avez entendu la question de cet auditeur à laquelle le colonel Corvès vient de répondre? Est-ce que peut-être pouvez-vous la relire? Parce que je pense qu'elle vous intéressera, Nicolas.
Quel pourrait être le lien avec le fait que des gens comme Jared Kushner achètent des milliers, des millions d'hectares de terres formidablement nourricières, au profit de qui tient les rênes? Personne quasiment ne répond à cette question.
Il n'y a pas que Jared Kushner, c'est-à-dire que beaucoup d'oligarques... Alors Jared Kushner a fait partie, en tant que gendre de Donald Trump, de gens qui sont beaucoup enrichis dernièrement avec la fille de Trump aussi, sur des transactions boursières suite aux aléas de la politique erratique de Trump vis-à-vis de l'Iran. Un jour c'est la guerre, le lendemain c'est la paix. Ils ont spéculé beaucoup sur la hausse et la baisse du pétrole. Ils ont gagné beaucoup d'argent. Et Jared Kushner et son épouse ont à un moment donné, en effet, comme le disait le colonel Corvez, voulu acheter une île en Albanie, soi-disant une île que la fille de Trump aurait visitée alors qu'elle était sur un voilier en vacances. Enfin, tout ça est bidonné. Mais ce qui est vrai, c'est que les oligarques, en général, achètent des terres actuellement, tout comme les grandes entreprises comme BlackRock qui ont acheté une partie des terres, en effet, en Ukraine, dont on se demande d'ailleurs s'ils vont, ils auront un retour sur investissement, parce qu'actuellement, eh bien, ces terres et ces terrains sont occupés par la Russie. Ouais. Et puis, oui, il y a en effet de la part d'oligarques tels que par exemple Bill Gates ou d'autres des volontés d'acheter des terres immenses, parce que la terre, eh ben, elle est c'est une denrée rare, hein, c'est une des seules denrées sur lesquelles qui n'est pas extensible à l'infini, donc elle a une valeur qui ne peut que monter. Et je pense qu'aujourd'hui en effet ils sont un certain nombre à faire des investissements à privatiser finalement la planète, à privatiser la terre. Et ça, c'est quelque chose de... C'est, je pense, j'ose espérer qu'on est sur la fin d'un système, parce que ce système aujourd'hui est spoliateur, totalement inhumain, et à mon avis n'a pas d'avenir. Enfin, j'espère qu'il n'a pas d'avenir en tous les cas.
Alors, on a deux questions d'auditeurs, on va pouvoir y répondre.
Question, oui. Remarque. Bonsoir. Informez-vous qu'Aja Kallas est estonienne, dont les grands-parents étaient des nazis. Son père était apparatchik soviétique. Il était directeur de la banque estonienne. Pendant l'ère soviétique, il est parti avec la caisse. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les Finlandais étaient dans le camp du Troisième Reich.
Non, pas toujours. Ça, c'est pas exact. Non, les Finlandais ont oscillé entre les deux camps. Parce que Mannerheim ne pouvait pas... il était obligé de manager la chèvre et le chou. Mais je croyais qu'elle était finlandaise. Non, alors elle est estonienne.
Oui,
bon, elle est imprudente. Dire que notre véritable objectif est de démembrer la Russie, c'est stupide. Surtout quand on est ministre des Affaires étrangères. Nous, on dit ça sur Radio Courtoisie, les gens haussent les épaules. Mais si on est ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et qu'on dit ça, c'est un aveu. Ou alors elle est complètement stupide.
Mais c'est un aveu que l'Union européenne est dans l'idéologie anti-russe, de même que tout à l'heure en 14, on a bien vu qu'entre le trône européen et le trône de Russie, on était dans l'idéologie aussi, il n'y avait pas de raison de se faire la guerre.
Évidemment. Alors, d'autres questions ?
Alors, une autre remarque. Bonsoir messieurs, dans l'engrenage, il faut compter les militaires prêts à se mettre sous les ordres du premier tyran venu pour trouver une occasion de guerre.
Je ne sais pas si aujourd'hui les militaires sont tellement... Ça serait intéressant d'ailleurs de poser la question au colonel...
Je vais vous dire, on est sollicité, nous les anciens militaires, on est sollicité mais pratiquement tous les jours. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez devant les Français, devant la décadence et les qui s'accentue chaque jour? On a une nouvelle de sociétés qui sont rachetées ou qui s'en vont ou qui s'écroulent. Et puis des décisions qui sont prises, non pas en faveur de la France, mais en faveur de l'Union européenne. Mmh. Et comme ce 14 juillet dont nous avons parlé tout à l'heure, ce qui est absolument scandaleux. Et donc, dans nos groupes de réflexion militaire en retraite, on n'est plus en activité, on est sollicité en permanence par des gens qui disent « Mais il n'y a que vous qui pouvez sauver la baraque. Qu'est-ce que vous attendez pour faire quelque chose? Vous êtes des lâches ou... ?» Nous, on leur répond, enfin, je schématise, je caricature, mais l'armée est disciplinée et l'armée, elle obéit au pouvoir politique.
Évidemment.
On ne peut pas sortir de ce truc-là. Alors maintenant, il est évident que les généraux qui sont portés au plus haut poste dans cette armée française sont tous des gens, d'ailleurs, qui ont eu à un moment une carrière dans l'OTAN, et ce sont des gens qui ont montré leur adhésion à l'idéologie européenne et non pas à l'idéologie française. Donc, on ne peut pas attendre de ceux qui sont actuellement aux commandes et qui donnent les ordres et qui dirigent, qui disent « Non, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Macron, je m'en vais, je pose mon képi. »
Ils peuvent quand même lui montrer les dangers d'une fuite en avant. Parce que si on rejoint là les analyses de Scott Ritter, si dans les mois qui viennent, on arrive à fournir en quantité dans les 25 sites qui sont situés sur le territoire de l'OTAN, les drones à longue portée qui vont permettre de mettre la Russie en difficulté, et plus qu'en difficulté, les militaires savent très bien qu'on court un risque de conflagration nucléaire. Oui. Enfin, ils ne sont pas bêtes à ce point de ne pas le savoir.
Non, mais ils le savent très bien. Et d'ailleurs, on a la chance d'avoir un type comme Poutine à la tête de la Russie, parce que Karaganov, lui,
il
fait pression en disant mais Poutine n'est pas assez ferme. Mais il y a plein de gens en Russie, de plus en plus, qui en ont marre de cette guerre, mais qui ne disent pas qu'il faut arrêter la guerre, capituler.
Il faut passer à la vitesse supérieure.
Et donc, il y a des pressions dans ce sens-là. Mais les militaires français qui sont à la tête de nos armées françaises, pour lesquels j'ai un immense respect et une immense sympathie, bien entendu, parce que je connais les hommes, il y a des hommes formidables là-dedans. Mais ceux qui sont aux plus hauts échelons de ce terrain, ils ont fait acte d'allégeance depuis le grade de commandant, lieutenant, colonel. Et après, ils gagnent étoile par étoile, une étoile par an, comme le chef d'état-major des armées actuelles, parce qu'ils ont montré une allégeance totale à l'idéologie européenne qui est qu'il n'y a plus de France, maintenant, c'est l'Europe qui compte.
Oui, mais si on arrive à une guerre mondiale... Alors, Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ah ben, écoutez, ce que dit le colonel Corrèze est tout à fait exact. Il y a une allégeance des porte-serviettes, comme Mandon, qui était un porte-serviette, un colonel, un 5 barrettes, qui va récupérer 5 étoiles quelques années après. Celui qu'on appelait, celui que Régis de Castelnau appelait le colonel Soja. C'est dire, c'est une personnalité en plus avec une virilité assez peu affirmée, qui semble-t-il fait partie des obligés de Macron et qui est arrivé là où il est arrivé. Macron va prochainement aussi, je crois, pourvoir à l'état-major, au chef d'état-major de la marine et de l'armée de l'air là très prochainement. Il y place chacun de ses membres. D'ailleurs, on peut se demander, pour un homme politique qui normalement est sur une fin de parcours politique et qui a dit qu'il ne ferait plus de politique ensuite, pourquoi place-t-il tous ces hommes à toutes ces hautes fonctions? On peut se demander si il n'a pas une idée derrière la tête de poursuivre son mandat un petit peu comme Zelensky en Ukraine.
Bah, c'est ce qu'on disait,
modèle. Voilà. Alors si vous l'avez dit, à mon avis, vous avez eu raison. Après, les officiers supérieurs et officiers généraux, en effet, sont obligés à un devoir d'obéissance par rapport au pouvoir politique. Néanmoins, oui, il y a, et vous avez parfaitement raison, Olivier, tout comme le colonel Corvez, raison de dire qu'il y a un risque d'escalade, que lorsque l'on envoie des nuées de drones, des attaques massives, que l'on envoie des, comme c'était le cas, il y a encore à deux jours dans la profondeur, des missiles Storm Shadow sur Voronezh, vous risquez en effet d'avoir à un moment donné une réaction russe. Je rappelle que les Storm Shadow, ce sont les Scalps, ce sont des missiles français, franco-britanniques, qui ont une portée d'à peu près 350-400 km, qui sont des missiles balistiques, des missiles de croisière, et qui sont des missiles qui ne peuvent être commandés que par un appui satellitaire qui ne peut venir que des forces de l'OTAN, particulièrement britanniques ou françaises. Donc ça veut dire qu'il y a de fait une co-belligérance. Oui. Poutine le dit, Poutine s'évertue à le dire depuis des années. C'est la première fois que des attaques MS frappent dans la profondeur en Russie. Ils ont frappé en Crimée depuis à peu près la fin 2023. Mais la Crimée, on sait que c'est un territoire qui est contesté. Oui, Par contre, Voronezh, c'est dans un oblast russe, et donc c'est-à-dire qu'on en est arrivé là. Il faut voir un petit peu le chemin parcouru depuis 2022 où on nous a à peine envoyé
des casques et des pansements.
Voilà, des pansements, des gilets pare-balles et rien d'autre. Parce qu'on disait, oh là là, si on va au-delà, on va être accusé de co-belligérance et puis on va se prendre des missiles russes. Et puis maintenant, jusqu'où on en est allé? Alors Poutine, en effet, a des nerfs d'acier, mais alors il y a le revers de toutes les qualités humaines, c'est-à-dire qu'il a laissé finalement franchir tout un tas de lignes rouges. Qu'est-ce qui reste encore pour qu'on aille maintenant à la conflagration? Ils essaient de contourner, par exemple, les Allemands n'osent pas livrer de missiles Taurus, qui sont des missiles qui ont 500, 600, 700 kilomètres de portée, qui pourraient frapper directement Moscou. Ouais. Trump finalement a renoncé à envoyer des Tomahawk, donc des missiles qui ont aussi plusieurs centaines de kilomètres de portée, qui pourraient frapper, par exemple, le Kremlin. Mais ils sont en train de construire un missile dit Flamengo, qui est un missile ouais. qui aura des portées équivalentes et qui demain pourra frapper une tour du Kremlin. Oui. Qu'est-ce qui va arriver si demain, eh bien, ça arrive? Parce que il faut savoir quand même une chose, c'est que ce n'est pas 90% des drones comme des missiles aujourd'hui fabriqués soi-disant par l'Ukraine sont en réalité fabriqués en Europe et assemblés parfois en Ukraine.
Le Kremlin a publié, le ministère de la Défense a publié la carte des 25 sites de production répartis sur tout le territoire de l'Union européenne et de l'OTAN, et notamment avec des sites en Grande-Bretagne, en Lituanie, en Lettonie, en Finlande, en Pologne, beaucoup. Est-ce que je ne sais pas s'il y en a en France d'ailleurs? Je ne sais pas s'il y en a.
Oui, mais oui, bien sûr. Au début, il n'avait pas cité. Au début, Lavrov, qui avait donc parlé de ces différents sites, avait semble-t-il voulu, parce que les Russes s'évertuent, à mon avis, totalement à tort, quand on voit le psychopathe qui nous dirige. Mais il s'évertue à tort à essayer de faire en sorte de mettre un petit peu la France de côté par rapport à la Grande-Bretagne ou à l'Allemagne, et donc n'avait pas cité de site français. Eh bien, Jean-Noël Barrot, ce nain maléfique, ce fou furieux, eh bien, a tout de suite dit « Ah, mais non, mais nous aussi, on en a. Donc, on met des cibles dans le dos de tous les Français. Voilà.
Alors, imaginons que, par exemple, là, en juillet, en août, en septembre, la Fédération de Russie détruise un certain nombre de sites situés en Lettonie, par exemple, ou dans les pays baltes. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les populations européennes se réveillent? Est-ce qu'elles se rendent compte du péril? Ou est-ce qu'elles continuent à somnoler, comme on le voit tous les jours? Moi, je vois les gens qui somnolent quand je leur dis qu'il y a un risque de vie ou de mort. Ils somnolent. Ils ricanent bêtement. Et moi, je dis que, effectivement, ce qu'a dit tout à l'heure Bruno Gollnisch est extrêmement pertinent. Même mentalité qu'en juin 1914.
Oui.
Même mentalité. Mon père, qui était petit, puisque mon père était né en 1908, il a connu cette période. Il m'a raconté. Il était un enfant, mais il avait 6 ans. Mais il s'en souvenait très bien. Il disait, mais personne, tout le monde rigolait. On savait même pas de quoi il s'agissait. On avait d'autres chats à fouetter. Personne ne prenait ça au sérieux. Ils ont été abasourdis quand ils ont vu la mobilisation russe, puis ensuite allemande. Et alors mon grand-père, qui lui était dans les affaires, attendait des versements importants parce que il faisait construire des immeubles à Paris. Et les fonds n'étaient pas encore versés. Et il s'est dit, mais ça commence à sentir terriblement le roussi, cette histoire-là. Les fonds, finalement, ont été versés la veille de la déclaration de guerre. Ce qui lui a permis de ne pas être ruiné. Et après, il a eu la chance d'être mobilisé comme officier d'intendance en Crète et en Grèce et dans les Balkans. Ce qui fait qu'il n'a jamais combattu sur le front, lui. Il était officier d'intendance, qui est capitaine. Mais les gens étaient abasourdis. Et ils ont dit, tout le monde disait, ça sera fini dans 3 semaines.
Oui, mais ils étaient... Si je puis me permettre d'intervenir, non seulement ils étaient abasourdis, mais ils étaient très contents.
Oui, en plus.
Le départ pour le front s'est fait dans l'enthousiasme. D'abord parce qu'il n'y avait pas de congés payés, il n'y avait pas de vacances. Et pour beaucoup de Français qui étaient d'origine majoritairement d'ailleurs paysanne, majoritairement les Français étaient encore des ruraux à cette époque, c'était l'occasion de voir du pays. Et puis ça allait être la revanche, et l'Allemagne allait être prise en étau.
Oui.
L'Empire
russe et la France.
L'Empire russe, dont les réserves en hommes et en matériel paraissaient inépuisables, et ça allait être le rouleau compresseur, et on aurait la revanche, et effectivement, c'était une affaire de quelques semaines. Voilà, on sait ce qu'il en est advenu dans les tranchées de Verdun et d'ailleurs. Mais je voudrais dire un mot, si vous le permettez. Comment sortir de ce guépier?
Voilà, bonne question.
Je pense que le devoir des hommes politiques, d'hommes politiques vertueux au sens romain du terme, ce serait précisément d'essayer de trouver une solution qui évite la perpétuation de ce drame absolu, affreux, qui fait des centaines de milliers de morts de part et d'autre du front, par lesquels la Russie et l'Ukraine sont en train de sacrifier leur jeunesse dans un conflit absurde, alors que ce sont des pays qui, par ailleurs, comme le nôtre, connaissent un déclin démographique extraordinairement préoccupant. J'ai l'impression qu'on assiste au suicide de la civilisation européenne, en tout cas, c'en est une des manifestations. Alors, soyons réalistes, soyons réalistes. Moi, je crois que l'Ukraine ne peut pas, sur le papier, renoncer à la possession du Donbass. Elle ne peut pas renoncer à la possession d'un territoire et de frontières qui ont été reconnues, y compris par la Russie, dans 3 traités successifs. Je tiens quand même à le rappeler pour nuancer peut-être un peu notre discours. Bon, elle ne peut pas y renoncer. La Russie ne peut pas non plus y renoncer, puisqu'elle a décrété l'annexion des territoires en question, des 2 républiques qui font désormais partie de la République fédérale de Russie, car la Russie, on ne le sait pas, le grand public ne le sait pas, est une République fédérale. Il n'y a plus d'Union soviétique, mais la Russie reste une République fédérale. Et donc, je crois qu'il faut un cessez-le-feu. Il faut un cessez-le-feu, et ce cessez-le-feu, il peut durer longtemps. Il faut arrêter le massacre.
La première
chose, c'est un cessez-le-feu, et je pense que tous les dirigeants européens d'Europe de l'Ouest devraient agir dans ce
sens. Oui, mais ça, il ne faut pas compter sur eux. Alors là,
ça ne résout pas le problème, bien sûr. En Corée, on a arrêté la guerre de Corée entre le Nord et le Sud, une terrible guerre également, par un cessez-le-feu signé à Panmunjom, et qui tient depuis 70 ans, et qui évite au moins aux 2 parties de la Corée de continuer à s'entretuer. Alors ensuite, il faudra bien sûr un règlement. Les situations politiques changeront. M. Zelensky ne sera plus toujours au pouvoir, M. Poutine non plus. La situation peut s'apaiser comme elle s'est apaisée entre la France et l'Allemagne après la guerre. Et je pense que la solution serait, si c'était possible, sous contrôle international, un référendum, comme on a eu précisément plusieurs circonstances après les 2 guerres mondiales dans beaucoup de territoires, un plébiscite ouvert à tous ceux qui étaient résidents dans ces territoires avant la guerre ou qui y sont nés, et pour savoir une fois pour toutes s'ils veulent rester ukrainiens ou s'ils regrettent devenir
russes
et veulent redevenir russes.
Mais alors,
je pense que c'est ça. La feuille de route,
mais c'est évident.
Mais
c'est le bon sens.
Un grand stratège.
Oui, mais justement.
Je ne vois pas d'autres feuilles de
route. Non, mais il y a pas de grand stratège. On a des vipères lubriques. Et vous nous parlez de grand stratège. C'est tout le contraire. Si on avait un grand stratège, on aurait depuis très longtemps neutralisé ce pays dès 2022. Ça serait fini depuis longtemps et des millions de gens auraient été épargnés. Mais justement, on n'a aucun grand stratège. Alors, quels sont les partis, à votre avis, en Europe et en France? Alors, je pense à l'AFD en Allemagne. Mais quels sont en France les partis qui veulent se mobiliser pour la paix? Alors il y a certainement Florian Philippot. Bon, Florian Philippot a toujours manifesté.
Je pense que le Rassemblement National le souhaite aussi.
Il faudrait.
Attendez.
Il y a Nicolas Stocker qui n'a pas l'air d'accord là.
Bruno Gollnisch, notre ami Bruno Gollnisch sait très bien, et il sait très bien que j'aurais raison en disant que c'est pas du tout le cas. Bardella est exactement aujourd'hui sur la même ligne que Macron. Jean-Noël Barrot a dit encore en indiscrétion il y a quelques jours qu'il pourrait signer les tweets de Jordan Bardella, président du Rassemblement National, concernant la guerre en Ukraine. Et le gros problème que nous avons aujourd'hui, justement, dans un pays comme la France, qui devrait être ce pays, et on est d'accord, pour moi, pas pour un cessez-le-feu, un traité de paix, parce que le cessez-le-feu, bien sûr que si les volontaires, les bellicistes veulent un cessez-le-feu à la coréenne ou autre pour pouvoir recommencer la guerre dans 2-3 ans. On rappelle que les chefs militaires, et ce n'est pas le colonel Corvès qui dira le contraire, se préparent à une guerre en 2030. Donc ils veulent encore gagner du temps, comme ils ont gagné du temps avec les accords de Minsk. Et donc un cessez-le-feu, pour moi, ce n'est pas du tout une solution. Il faut un véritable accord de paix définitif, tel que l'esprit d'encore Anchorage. C'était ce qui avait été d'ailleurs annoncé à Anchorage entre Trump et Poutine. Lavrov, hier, a dit, eh bien, l'esprit d'Anchorage est mort parce que, justement, les accords d'Anchorage n'ont pas été respectés. Et aujourd'hui, il n'y a plus de question d'accord de paix, mais seulement de cessez-le-feu. Et les Russes ne veulent pas d'un cessez-le-feu parce qu'un cessez-le-feu, c'est tout de suite après les volontaires l'OTAN qui viendra en Ukraine. Donc ça, c'est chose. Ensuite, sur les partis politiques, à part en effet les trois mousquetaires que sont Philippot, Asselineau et Dupont-Aignan, vous n'avez malheureusement, il n'y a pas un député aujourd'hui en France qui va à l'encontre de la politique de la France d'Emmanuel Macron. Oui. C'est quand même tout à fait, excusez-moi de m'énerver, parce que quand on sait, on est en train de parler de cibles dans le dos des Français, de menaces, qui aujourd'hui est aussi bien, j'ai envie de dire que les seuls qui disent quand même, attention, la politique de la France n'est pas ce qu'elle devrait être, et ça me fait mal, croyez-moi de le dire, mais c'est LFI, c'est Mélenchon, le seul aujourd'hui en homme politique qui est une représentation nationale, qu'ils disent. Bardella aujourd'hui, il tient les propos, il dîne avec Zelensky, il tient des propos et un discours qui est totalement aligné sur la politique du Quai d'Orsay de la France. C'est comme ça, c'est quand même terrible à dire, mais c'est un fait et c'est une vérité.
L'AFD aussi...
Peut-être peut-on laisser quelques minutes à la défense.
Alors, bien sûr.
Nicolas Stocker, avec beaucoup d'habileté, arrive à dire
de
que
brio,
les
même.
Partisans du cessez-le-feu sont des complices. Moi, je suis partisan du je regrette beaucoup, je suis partisan d'un cessez-le-feu immédiat et je ne suis pas un belliciste. Nicolas dit très justement qu'il faudrait un accord international. Bon, mais Nicolas, regardez un peu dans l'histoire. Aucun traité réglant des questions telles que celle-là n'a été signé sous le feu. Tous les traités ont été signés, y compris, puisqu'on parlait de la Première Guerre mondiale, l'armistice, il est du 11 novembre 1918. Le traité de paix de Versailles ne sera signé pratiquement qu'un an plus tard, en 1919. Bon. Donc, il n'est pas possible de négocier un traité qui résolve tous les problèmes en suspens, alors que les combats continuent. À mon avis, ça n'est pas réaliste. Dernière chose, et je m'arrêterai là, en ce qui concerne Jordan Bardella, je ne me suis pas entretenu récemment de ce sujet avec lui. Je pense qu'il faut tout de même admettre, qu'il y a des gens dont je suis qui considèrent que Poutine a eu tort d'envahir l'Ukraine. Voilà. On a le droit de penser
oui,
ça.
Oui, oui, oui.
On a le droit de penser ça, et pour autant, et d'admirer la résistance héroïque des Ukrainiens qui croient défendre leur territoire national et leur identité. Ce sont aussi des êtres humains et des soldats souvent extrêmement, extrêmement valeureux, et ils ont eu des pertes considérables. Bon, pour autant, on peut avoir cette position et être totalement hostile au fait de fournir aux Ukrainiens des armes à longue portée pour détruire le territoire russe.
Évidemment.
Ça n'est pas incompatible.
C'est pas incompatible, non, mais j'aurais
tant... C'est le cas, je crois, de la plupart des responsables du Rassemblement national que je connais, mais nous sommes dans un domaine où la nuance n'est pas permise.
Et oui, alors moi
c'est comme le Covid, si vous dites quand même, il y a eu quelques cas graves de Covid... M. Guasguen, M. Devedjian sont morts. Ah, vous êtes un pro-vax.
Voilà, c'est ça.
Et si vous dites attention, le vaccin a quand même, ce vaccin n'est pas vraiment un vaccin, il a eu des effets dévastateurs. Vous êtes un complotiste.
Un anti-vax. Alors, j'aurais tendance à dire que le président Poutine ne pouvait pas faire autrement parce qu'il avait déjà trop attendu, c'est l'opinion du colonel Corvez et j'y adhère. Parce que pour moi, l'Ukraine n'est pas une nation, c'est une province de la Russie. Bon, donc ça faisait trop longtemps que ça pourrissait, il pouvait pas continuer à attendre. Mais en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, vous n'avez pas tort, Bruno. Parce que comme l'a dit Scott Ritter, qui est un vieux militaire, si vous devez commencer à expliquer pourquoi vous avez fait quelque chose quand vous êtes un chef de guerre, eh ben c'est que vous avez déjà perdu. Parce que si vous avez gagné, on ne vous pose jamais la question. Et il dit, à partir du moment où Poutine est obligé d'expliquer qu'il ne pouvait pas faire autrement, c'est qu'en effet, il s'est trompé. Parce qu'il ne fallait pas rater son coup. Et ça, c'est certain qu'il n'a pas mesuré les implications. Bah, d'ailleurs, comme Trump avec l'affaire d'Iran, c'est exactement la même chose. Il s'est enlisé dans un truc qu'il ne pensait pas devoir durer. D'ailleurs, c'était opération militaire spéciale, c'était exprès pour minimiser la gravité de la situation. Et oui. Là, il avait... Alors, vous avez tous les deux raisons, finalement. Vous avez tous les deux raisons, mais il
précise,
faut...
Je précise juste une chose, une minute, c'est que je déplore profondément que l'on n'ait pas saisi l'occasion, à partir de la chute du mur de Berlin, d'une entente fraternelle, fructueuse avec la Russie, et qu'on n'ait pas respecté la parole donnée à Gorbatchev de ne pas étendre le domaine de l'OTAN à partir du moment où l'Union soviétique avait mis fin au pacte de Varsovie.
Mais parce que les démocraties occidentales qui se parlent de toutes les vertus ne sont pas du tout des États vertueux, mais plutôt des États mafieux. Ils étaient nourris d'arrière-pensée. L'idée, c'était celle de Brzezinski et des Américains dans le 1995, le grand échiquier, on va s'emparer des richesses de la Russie. On va démembrer la Russie. Celui qui tiendra l'Ukraine tiendra la Russie et la démantèlera. Et cette sotte de Kajakalas, elle l'a confirmé en 2025. Notre véritable objectif est de démembrer la Russie. Enfin, bon sang de bonsoir, elle l'a dit. N'est-ce pas, Nicolas ? Elle l'a dit ouvertement. Donc ça veut dire que ces gens-là, ça fait 30 ans qu'ils ruminent une arrière-pensée sordide. On va détruire la Russie pour s'emparer de ses richesses. Voilà. Voilà ce que je pense profondément. Et je crois que cela étant, maintenant, il faut que les peuples, qui eux sont, vont être les premières victimes de tout ça, parce que s'il n'y a pas un homme politique pour militer pour la paix, il n'y a pas un Français qui a envie de faire la guerre en même temps.
Il faut quand même préciser que quand... Bruno Gollnisch dit que l'Ukraine se bat héroïquement et qu'elle montre qu'elle est capable de résister à la Russie. Non, c'est faux. Il y a des soldats qui se battent héroïquement en Ukraine, mais l'Ukraine aurait été dévastée dès le début s'il n'y avait pas eu l'OTAN actuellement. Si ce n'était pas l'OTAN qui... Parce que Zelensky fait des déclarations et ses généraux font des déclarations pour faire croire que c'est eux qui font la guerre à la Russie. Mais non, ils sont utilisés, on les fait tuer... pour faire la guerre de l'OTAN contre la Russie. Mais l'Ukraine seule, elle était absolument incapable de faire ce qu'elle a fait. Et c'est pour ça que l'opération spéciale militaire russe a été déclenchée par Poutine, parce qu'il avait vu la montée en puissance de cette OTAN au sein de l'Ukraine, et qui voulait montrer qu'il faut arrêter ça, on ne peut pas continuer comme ça.
C'est assez logique.
Mon colonel, ce n'est pas parce que l'Ukraine... reçoit des subsides, des éléments d'armement, etc., de la part de l'OTAN, de la part des pays de l'Union européenne, etc., ce que je reconnais tout à fait, et que sur le terrain, il n'y a pas des combattants ukrainiens héroïques et qui croient défendre l'indépendance de leur nation, laquelle a été reconnue, je vous prie, par 3 traités solennels, signé par la Russie, moyennant d'ailleurs, comme vous le savez aussi bien que moi, l'abandon par l'Ukraine du potentiel nucléaire qui existait sur son territoire depuis l'Union soviétique.
Mais depuis ces traités,
du sang a coulé. Peut-être n'en serait-on pas là.
Mais depuis ces traités, Bruno, le sang a coulé, et l'eau a coulé dans le Dniepr. Sous les ponts, l'Ukraine d'aujourd'hui, il est certain, je l'ai dit d'ailleurs, qu'il y a des soldats ukrainiens qui se battent avec courage et qu'il faut admirer. Mais l'État lui-même est complètement... Tout le monde le dit, même les Ukrainiens le disent. Une ancienne conseillère de Zelensky a dit « mais c'est plus un État, c'est une corruption organisée et ça n'est pas un État ». Il se montre aujourd'hui sous ce vrai visage, comme Benoît Méchain l'avait dit dans son petit bouquin « Ukraine, le fantôme de l'Europe ». Ça n'existe pas l'Ukraine. Kiev, c'est le berceau de la Russie, qu'on le veuille ou non, mais c'est comme ça. Quand le général de Gaulle est allé en URSS en 1966, je crois, faire un voyage historique où il est resté, je crois, 10 jours en URSS, il est allé à Kiev. Mais c'était, il allait voir les Russes de Kiev.
C'était une des républiques, c'était une des républiques soviétiques.
Oui, mais avant, c'était une province de l'Empire.
D'ailleurs, un siège au Conseil, à l'Assemblée générale des Nations Unies, distingue de celui de la Russie.
Mais écoutez, de toute façon, je vais vous dire une chose. Regardez, c'est à peu près la même chose avec Taïwan, qui fait partie de la Chine. Imaginez qu'il y ait une difficulté nouvelle avec Taïwan, parce que la Chine voudrait attaquer Taïwan. Est-ce qu'on ferait défiler l'armée taïwanaise sur les Champs-Élysées au risque d'avoir une conflagration nucléaire avec la Chine? Bah, bien sûr que non.
Certainement pas.
Certainement
mais,
pas.
Mais, je, bon. Mais il y aurait beaucoup de gens, à juste titre, et j'en sais, pour s'estimer parfaitement solidaires
de Taïwan,
de la population taïwanaise.
Mais bien sûr.
De passer sous le joug.
Mais bien sûr, mais néanmoins, comme vous l'avez très bien dit d'ailleurs, on peut désapprouver quelque chose, mais néanmoins œuvrer pour la paix, parce que de deux mots, il faut choisir le moindre. Il faut éviter le syndrome de 1914. Et je pense que ce qui me fait très peur, et je crois que Nicolas Stoker l'a bien dit tout à l'heure, c'est d'un côté ce bellicisme imbécile qu'on trouve dans tous les partis politiques, peut-être sauf chez LFI, comme vous l'avez bien dit, et en même temps cette anesthésie de la population qui ricane chaque fois que je lui en parle. Enfin, que je lui en parle, je parle autour de moi. J'ai dit, vous risquez pas, vous n'avez pas peur d'une guerre entre l'OTAN et la Russie? Vraiment des imbéciles. Alors qu'est-ce que ça veut dire les imbéciles? C'est des gens faibles, faibles d'esprit. Imbécilitas, c'est la faiblesse d'esprit. Ils n'ont pas la force d'imaginer ce que ça pourrait être. Et ça peut être horrible, justement, parce que personne n'a eu le courage de l'imaginer. Parce que si tout le monde, en 1914, avait dit « halte là, c'est de la folie, il faut arrêter ça tout de suite », s'il y avait eu des manifestations partout, à Berlin, à Vienne, à Paris, pour empêcher la montée, ben, il n'y aurait pas eu la guerre de 14. Et mais c'est que personne n'y croyait, justement. Et je retrouve ce même état d'esprit délétère aujourd'hui, d'anesthésie. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, Nicolas.
Alors, sur l'ensemble de la représentation nationale, moi, ce que je rappelle, c'est que des traités ont été encore signés, parce que il y a les bonnes intentions, et Bruno Gollnisch, par exemple, est un sage, et c'est un ami, mais il y a Bruno Gollnisch, et puis il y a la représentation nationale. Moi, je compte les députés les uns après les autres. Vous avez des accords qui ont été signés de traités entre la France et l'Ukraine, encore dernièrement, à l'Élysée, Zelensky est venu et a paraffé un certain nombre d'accords et traités qui ne sont jamais passés devant l'Assemblée nationale, devant le Parlement. Et aucun parlementaire aujourd'hui ne dit « mais ce n'est pas normal, il faudrait savoir », puisqu'il y a même d'ailleurs certains éléments dans ces traités comme dans d'autres traités. Hein, parce qu'actuellement, on est en train de faire des alliances un petit peu justement comme en 14 qui provoqueraient presque automatiquement une réaction si un des pays était attaqué par la Russie. Les parlementaires, aucun parlementaire, aucun groupe parlementaire aujourd'hui, et là, LFI compris, n'a demandé des comptes au chef de l'État. Donc si on ne demande pas de comptes au chef de l'État, voilà où on en est. La population,
Nicolas,
elle, en effet...
Il y a eu une très vive protestation du groupe RN contre la violation de l'article 55 de la Constitution qui impose la ratification parlementaire toutes les fois que les finances publiques sont engagées.
Oui, alors les finances publiques, mais il n'y a pas que les finances publiques. Vous avez aussi ce qui avait été, par exemple, le général Coustou avait reproché qu'un certain nombre d'éléments militaires, de matériel militaire avait été livré gracieusement à l'Ukraine et que c'est tout à fait normalement illégal. Mais voilà, en tout cas, ça n'a jamais abouti ni à une mise en cause du président, ni même du gouvernement. Et puis alors, pour l'aspect population civile, oui, eh bien écoutez, on verra si le 14 juillet, les Français se laisseront déposséder de leur 14 juillet, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, de ce 14 juillet finalement avec une partie de l'armée ukrainienne qui va défiler, un Mirage 2000 aux couleurs de l'Ukraine avec un binôme franco-ukrainien aux commandes qui passera au-dessus des Champs-Élysées. Est-ce qu'on va l'accepter? Est-ce qu'on va accepter l'armée européenne avec l'intégration de l'Ukraine? Ou bien est-ce que l'on va se révolter? Mais si on ne se révolte pas, je vais faire preuve, je vais terminer juste de façon assez cynique et provocatrice. Olivier, je vais vous dire, la chance que nous avons, c'est que contrairement à 1914, où la France était un grand pays, une grande puissance, avec des hommes qui savaient se battre, et c'est pour ça que ce fut une terrible boucherie, et que ça a duré pendant 4 ans. Je rappelle qu'en 40, en 5 semaines, on s'est fait rétamer. Et je pense que là, si demain, il nous arrivait l'idée stupide de s'attaquer à la Russie, outre le nucléaire, qui est en effet extrêmement inquiétant, mais si on ne compte pas le nucléaire, l'armée française, elle est est capable de tenir 3 jours sur un front de 40 km et elle n'a pratiquement pas de réserve de munitions. Donc j'ai envie de dire, peut-être qu'après tout, ce qui pourrait arriver de mieux aux Français demain, si ce n'est en effet le problème nucléaire typique, et ouais. Là Macron là-dessus, à mon avis, est un psychopathe, et d'ailleurs l'a déjà annoncé, il n'hésiterait pas une seconde à appuyer sur le bouton nucléaire,
oui,
c'est là le vrai
dit.
Problème.
Il l'a dit.
Pour moi, le problème, il est nucléaire, mais
ouais,
sinon,
ouais,
conventionnellement,
oui, oui, on est d'accord,
ça ne ferait pas un pli, et le problème du régime actuel qui soumet le peuple français pourrait très vite disparaître, et on pourrait en remercier nos amis russes. Voilà où irait ma provocation. On a tenu 4 ans pendant en 14, et bien un siècle après, on tiendrait 3 jours. C'est ouais, à peu oui. près le niveau de la
Alors,
France d'aujourd'hui. Et
question très importante pour conclure, parce qu'on arrive à 4 minutes 52 de la fin de l'émission. Que doivent faire les Français comme nous, qui sont de bon sens attachés à la paix et à la civilisation, pour empêcher ce qui pourrait être une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'il faut aller sur les Champs-Élysées crier « à bas la guerre, vive la paix », comme le préconisent certains? Est-ce qu'il faut se mettre en rapport avec des partis qui soutiennent la paix, comme l'AFD en Allemagne? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Puisqu'aucun représentant, à part LFI, mais on ne va pas aller voir les gens de LFI quand même, c'est un peu embêtant ça. C'est quand même fâcheux d'en arriver à une telle situation.
Moi je crois que les événements internationaux vont avoir un impact sur l'Union européenne. Et je veux dire sur les pays de l'Union européenne. Et ces événements internationaux, c'est la guerre entre l'Iran et les États-Unis et Israël, et la façon dont elle est en train de se terminer, se régler, ça va avoir un impact sur la guerre entre l'Ukraine, OTAN et la Russie. Et que je pense que l'inanité des positions de l'Union européenne vont apparaître encore plus, parce que la plupart des Français, des Italiens, des Allemands, des Britanniques aussi, qui sont sortis mais qui ont rejoint par la fenêtre, des Portugais, des Espagnols, tous les pays européens, les citoyens des pays européens sont maintenant conscients que l'Union européenne est perverse et qu'il faut la supprimer parce qu'elle ne sert pas les intérêts des citoyens des pays.
Oui, des populations.
Elle ne sert qu'une oligarchie technocratique et financière qui se trouve à la tête de cette Union européenne. Et donc, je pense que la fin de la guerre au Moyen-Orient, telle qu'elle est en train de se terminer, et la fin, du coup, ça va avoir un impact sur la fin de la guerre entre l'OTAN-Ukraine contre la Russie, et que l'inanité de l'Union européenne va apparaître très nettement et que l'Union européenne va disparaître.
Écoutez, on va bien voir. Il y aura surtout les élections en Allemagne, ça va beaucoup jouer. Mais je pense qu'il faut continuer à parler autour de nous de ce risque de guerre parce que, au fond, les gens que nous côtoyons n'ont jamais connu de guerre et ils ne savent pas ce que ça peut arriver. Vous savez, c'est pour ça d'ailleurs que les grandes sociétés, les grandes catastrophes se produisent, entraînant la chute des sociétés. C'est parce qu'elles ne sont jamais arrivées avant. Les gens ne l'ont pas connu, donc les populations sont en quelque sorte naïves. Vous savez, on parle parfois d'une population naïve en matière de virologie, quand elle n'a jamais été confrontée à un agent pathogène. Eh bien là, c'est la même chose. Les populations sont naïves. Quand on leur parle, ils rigolent. Comme un jeu vidéo, quand on leur parle de la doctrine Karaganov, ils haussent les épaules. Quand on leur parle des missiles à longue portée, ils blaguent.
Vous avez raison. Et regardez comment ils votent.
Et voilà.
Enfin, si on en est arrivé à avoir Macron réélu et tout, c'est bien parce que les gens, tant qu'ils ne sont pas atteints dans leur chair directement, ils laissent faire parce que ces gens-là, ils ont été élus par défaut à chaque fois.
Exactement.
Et c'est pas un enthousiasme de population qui a mis au pouvoir Macron 1, Macron 2. Ils ont été élus par défaut.
Exactement.
Et donc, tant que les gens ne seront pas touchés dans leur chair par les conflits, que ce soit le conflit en Asie occidentale ou le conflit en Europe,
ils ne réagiront pas.
Ils feront comme vous dites, ils rigoleront.
C'est un jeu vidéo et ils ne savent pas qu'ils sont acteurs dans ce jeu vidéo. Et ça, c'est dramatique.
Bon, pour moi, selon moi, Olivier, si j'ai juste un mot à dire, c'est que je pense que ils ont l'impression que le parapluie nucléaire français les protège.
Oui.
Et ça, c'est une erreur magistrale. Ils ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, nous avons frappé avec des missiles, parce que ce ne sont pas les Ukrainiens qui le font, en effet, avec des missiles dans la profondeur russe, le territoire de la première ou seconde puissance nucléaire mondiale qui a des milliers d'ogives nucléaires, de quoi détruire 5 fois la planète.
Oui.
Et ça, ils ne se rendent pas compte que nous avons déjà franchi un certain nombre d'étapes et de seuils, et que demain, la Russie pourrait considérer qu'il faut qu'elle rétablisse sa dissuasion nucléaire. Et c'est ça qui est très dangereux. Les gens ne se rendent pas compte qu'on a déjà dépassé les limites.
Exactement. Je suis entièrement à votre avis. Écoutez, merci Nicolas, merci colonel.
On a dépassé l'heure.
Merci. Non, pas tout à fait, il reste 3 secondes. Merci Bruno Gollnisch. Au moins, on n'était pas tous d'accord, c'est ça qui était très bien. On ne pourra pas nous dire qu'on était de connivence. Et merci, chers auditeurs. Et à demain, prochaine émission sur la Suisse confrontée à l'impérialisme de l'Union européenne. À bientôt.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du droit et des libertés, dirigé par Olivier Tournafond, assisté de Bérénice, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, mardi 23 juin 2026 de 19h30 à 21h et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal, commander le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris.